Yves Bouget, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG d'HF Compagnie. On va revenir avec vous sur votre année 2016 et puis sur les perspectives. Ça a été une année avec pas mal d'espoir, hein, notamment aux États-Unis pour vous. On va en reparler. Qu'est-ce que vous retenez de plus important, vous, sur cette année? Puisqu'on sent que ça a été compliqué à la fin, finalement.
Alors, j'aimerais avoir beaucoup d'années compliquées comme celle-là, hein, vu que notre chiffre d'affaires ressort à plus 28% cette année. Grâce finalement au levier opérationnel, on multiplie par 3 le résultat opérationnel courant et on fait progresser de 50% le résultat net des activités finalement conservées. Donc une très belle année en termes d'exploitation. Moi je prends un critère très simple hein, pour l'exprimer, c'est le BFR. Le BFR aujourd'hui, alors qu'on a progressé de 30%, finalement il ressort à plus 0,9%. Ce qui donne une idée du niveau de performance du groupe HF Compagnie dans des concepts, dans des concepts de switch off. Aujourd'hui, je pense qu'on est une entreprise qui maîtrise totalement le sujet et nous sommes capables, bien évidemment, de faire jouer tous ces leviers opérationnels, comme le montrent les résultats.
C'est-à-dire, vous dites pas s'intéresser à la perte nette, mais aller regarder au-delà de l'impact qu'il y a pu y avoir par rapport à AT&T, par exemple.
Enfin, vous
Ou,
comme moi, on
oui.
sait très bien que une implication de goodwill n'a jamais changé l'exploitation. L'exploitation économique est positive, elle ressort à plus de 2,4 millions. Après, bien évidemment, en hormis IFRS, le goodwill on l'impacte, mais ça ne change pas la valeur. Ce que je disais aujourd'hui, quand on regarde l'histoire de Léa, ça a produit 430 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le groupe, 25 millions d'EBITDA, ça a été acheté par accroissement de capital 34 millions d'euros avec un cours à 42 millions, et aujourd'hui, le bilan est extrêmement sain. On a une entreprise aujourd'hui qui est acteur majeur sur son périmètre qui est les splitters. On a derrière ça créé une filiale aux États-Unis qui représente dans la protection module 3 millions d'euros. On a créé une filiale à Shenzhen qui fait pour partie le développement aujourd'hui de la R&D. On a à 50%, on est propriétaire d'une usine de 180 personnes dans laquelle on intègre totalement notre production, ce qui nous permet finalement de protéger notre technologie en Asie. Et on a le laboratoire des applications numériques aujourd'hui, qui est un des leaders mondiaux en termes de laboratoire, qui est une référence mondiale, qui est le seul habilité à gérer finalement la validation du Gigafast, la fibre, qui est le seul aujourd'hui à gérer des smart grids derrière Linky. Et tout ça, finalement, ça fait partie du bilan de Léa.
C'est le
Donc la
plus
création de
important,
valeur,
ouais, elle est là.
elle est là.
Ce qui s'est passé avec AT&T, donc, qui n'a pas forcément retenu la totalité de ce que vous aviez envisagé au départ, est-ce que ça peut changer ou finalement, aujourd'hui, vous pensez qu'ils vont rester sur ce choix-là?
Bah souvent l'histoire se répète, AT&T c'est la même histoire qu'SFR que nous avons vécu quelques années. Hein. Moi en toute transparence, j'ai annoncé au marché le contrat qu'on avait, qui était un contrat pluriannuel, je dirais avec des masses aux alentours de 20 à 30 millions de dollars, donc, mais comme SFR à l'époque. Après, les marchés des télécoms est un marché extrêmement volatile. Hein. Je rappelle que SFR, c'est l'arrivée de Free qui a créé la perturbation et qui a amené l'annulation des contrats sur lesquels on fonctionnait parce qu'il fallait faire des économies immédiatement pour résister à la pression de Free. Et TNT, c'est pas finalement le home digital life qui est remis en cause, c'est tout simplement qu'il y a une priorisation qui est donnée chez TNT à l'acquisition du câble opérateur pour 90 milliards de dollars, et tout le cash aujourd'hui est consacré, et à partir de ce moment-là, on arrête les investissements. Ce qu'il faut retenir quand même, hein, c'est d'abord qu'effectivement, les procédés sont quand même extrêmement sportifs, parce que annuler comme ça des contrats, c'est pour le moins tendancieux. En revanche, ce que je constate, c'est qu'en sortie, les éléments de technologie comme le Power over Ethernet, où on est un des acteurs mondiaux à maîtriser cette technologie qui permet d'alimenter électriquement un objet à distance par l'intermédiaire du câble Ethernet. Aujourd'hui, ils ont conservé ce produit-là et ils en ont acheté en 2016 pour 3 millions de dollars et ils comptent bien continuer à en acheter. Je rappelle aussi qu'AT&T, avec ses 3 millions de dollars en 2016, c'est quand même un des 10 premiers clients du groupe HF Compagnie et il va le rester. Donc tout n'est pas négatif non plus. Certes, on aurait préféré avoir une année 2017 qui ne soit pas une année de transition au niveau normatif de 2015, mais en revanche, aujourd'hui, ça nous a permis de construire une très belle technologie qui fait partie de notre plan Ambition 2020.
Sur la partie TNT haute définition, on en est où dans ce cycle hein, à la fois de renouvellement par période et puis voilà,
Alors, c'est le énième rebond de l'histoire de la technologie de la vidéo, hein, bien évidemment. Donc, aujourd'hui en France, en tout cas, le switch-off est fait. On va, après une phase où on descend un petit peu de la médiane parce qu'il faut épuiser les surstocks des distributeurs, on va revenir à un médian classique où le marché va représenter 10% du marché initial. Si on regarde sur le plan européen, le VBT2 HEVC va démarrer par Länder en avril en Allemagne. Et on sait que la Communauté économique européenne a fixé comme date limite à l'ensemble des pays européens fin 2020 pour que tout le monde soit à la norme HEVC. Ce qui veut dire, bien évidemment, qu'il y aura un nouveau gap techno d'ici 3 ans en France, qu'il y aura un gap techno en Espagne, qu'il y en aura un en Italie, qu'il y en aura finalement dans tous les pays d'Europe où nous sommes quand même installés. J'ajoute que on a décidé cette année d'investir un petit peu en Allemagne, dans la mesure où effectivement le switch-off va démarrer en avril. On verra, on a lancé des productions, on verra ce que on est capable de faire en switch-off en Allemagne. En tout cas, jusqu'à présent, c'est quand même des marchés qu'on a très bien suggérés.
Vous avez aussi parlé aux investisseurs du plan Ambition 2020. Vous avez de la trésorerie. Comment va évoluer le profil de la chef-compagnie dans les prochaines années, ce plan?
Alors, ce plan Ambition 2020 n'est pas un plan que directionnel, hein, d'abord. C'est un plan sur lequel on a fait travailler l'ensemble des équipes du groupe, hein, que ce soit les équipes du métier du Home Digital Life, que ce soit les équipes du broadband. L'objet, c'est d'atteindre une taille critique rapidement et de devenir un leadership, d'avoir un leadership sur nos marchés. Donc, globalement, on a trois leviers sur ce plan Ambition 2020. Le premier levier qui concerne l'Home Digital Life sur de la croissance organique. Hein, nous voulons devenir un acteur majeur de ce qu'on appelle le small audio. En termes de métriques, hein, pour donner une idée, le small audio en Europe, c'est 2 milliards 46 millions de business annuels. À titre de comparaison, la TNT, les box TNT, c'est 155 millions. Donc ça veut dire qu'on s'installe. On est rentré sur ce marché il y a 3 ans, on fait 5 millions d'euros aujourd'hui. On s'installe sur un marché qui a un potentiel de croissance organique colossal. On a un porte-avions sur 4 pays européens pour le distribuer à la grande distribution. Je pense qu'on a tous les atouts pour être un acteur important de ce business et y faire une croissance significative. Mais on a un deuxième axe à travers l'évolution technologique. On va faire une migration pour Léa sur son métier. Aujourd'hui, le haut débit se transforme en très haut débit. On veut être un acteur du très haut débit. Et ce qu'on sait dans le très haut débit, c'est que entre l'espoir et la réalité, il y a souvent une marge. Donc, quand on arrive aujourd'hui avec la fibre devant un immeuble, on se trouve face à trois problématiques. La première, obtenir l'accord du syndic de copropriété pour pouvoir rentrer. La deuxième, dépenser beaucoup, beaucoup d'argent pour faire le génie civil, pour rentrer la fibre, pour aller au pied de l'immeuble, pour la distribuer au sein. Et la troisième, qui est toute bête, obtenir un rendez-vous chez le propriétaire ou le locataire de l'appartement pour installer la prise, alors qu'on ne sait absolument pas, de toute façon, s'il prendra la fibre. Donc un coût résiduel colossal. Je reconnais là les Anglo-Saxons, ça fait des années, et le LAN nous a servi à ça, des années que nous travaillons sur le projet GLFIST. Nous allons créer, nous, une smart box panel pour traiter ce problème qui permettra à l'arrivée de l'immeuble d'amener la fibre. Et aujourd'hui, tous les immeubles ont soit deux percuvrés téléphoniques, soit du câble coaxial. Globalement, la déperdition est quasi nulle et on diminue et on divise les coûts par 10 et on est un facilitateur. Donc aujourd'hui, on est en train de faire un transfert, on travaille sur cette technologie et on a une deuxième qui est issue du contrat SFR et qui est issue finalement du contrat AT&T, qui est le PoE, le Power over Ethernet, transférer de l'électricité par le réseau Ethernet ou faire du reverse powering, pardon, excusez-moi, hein, qui permet d'envoyer à partir de l'abonné de l'alimentation électrique sur une box qui est extérieure. Ces deux marchés, pour donner encore une métrique, le marché G-Fast, globalement, les études nous disent, à horizon 2021, il y aura à peu près 25 millions de sets installé et il fera 10 millions de sets annuels. Arrêtons de regarder. La France est un tout petit pays. On sait que Léa, c'est un acteur mondial de la filtration. Nous nous intéressons là au marché mondial.
Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler. Merci, je bougeais.
Merci.